nous en prie des candélabres. Le cours de tâche n'est que ton buzz.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont des maladies infectieuses potentiellement mortelles qui surviennent le plus souvent dans des zones où l'hygiène est précaire. C'est une maladie très fréquente dans les pays en voie de développement. Que faire en cas de fièvre typhoïde? Quand consulter un médecin? Quels sont les symptômes ou les signes de fièvre? Quels sont les modes de contamination?
On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde, mais pas fièvre. Les autres symptômes, vous pouvez avoir des troubles digestifs, alternance, diarrhée ou constipation, ou les deux à la fois, les insomnies, la toux, les hémorragies, céphalées.
Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Après cette discussion sur la première partie consacrée à la fièvre typhoïde, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission Carnet de santé. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec le docteur Timothée Nkeba. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Aujourd'hui nous
Bonne
allons...
année.
Merci beaucoup docteur. Nous allons parler de la fièvre typhoïde. Nous allons commencer avec une question qui vient de la RDC, Pascal Munganguzi, qui veut savoir ce qui est à la base de la fièvre typhoïde.
En fait, la fièvre typhoïde fait partie des maladies fébriles transmissibles et causées par certaines bactéries, du genre Salmonella. Ce sont des maladies qui sont principalement dues à des fièvres, et ces fièvres-là sont causées par des bactéries qui sont principalement des Salmonella. Les Salmonella qui causent la fièvre typhoïde sont principalement des trois catégories. Les Salmonella typhi, les Salmonella paratyphi A et B, et même les Salmonella paratyphi C. C'est principalement ces germes-là qui causent la fièvre typhoïde.
Ensuite, nous avons une question qui vient de Gilbert Onésime Kasinga depuis le Kasaï Oriental en RDC. Mais c'est aussi la même question que beaucoup d'auditeurs ont posée. Donc lui, il veut savoir quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde.
Les symptômes de la fièvre typhoïde sont polymorphes. C'est plusieurs symptômes, mais principalement, comme le nom le dit, les premiers signes, les premiers symptômes phares de la fièvre. On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde sans fièvre. Ça, c'est la première chose. Les autres symptômes dépendent de la phase de l'évolution de la maladie. Donc, j'ai dit principalement la fièvre. Vous pouvez avoir des troubles digestifs en général, alternance, diarrhée ou constipation, ou les deux à la fois. Vous pouvez avoir les insomnies, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir des épistaxis ou des hémorragies, vous pouvez avoir de l'asthénie physique, des céphalées, c'est l'ensemble de tous ces signes-là. Mais surtout, la fièvre qui est l'élément capital dans la maladie appelée fièvre typhoïde.
Merci. Et en cas de fièvre typhoïde, lorsqu'on a constaté tous ces symptômes et qu'on est convaincu qu'il s'agit certainement de la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement?
Normalement, quand on a la fièvre typhoïde, on doit se faire consulter. Ça, c'est l'idéal parce qu'on ne peut pas se déclarer avoir la fièvre typhoïde by Kimaik. On a des signes, vous allez vous faire consulter. Et lors de la consultation, il y a des éléments cliniques pathognomoniques qui mettent les cliniciens en alerte pour lui dire ici, probablement, on peut être devant la fièvre typhoïde. Et cliniquement, on va avoir une température qui est assez élevée. On dit la température, la fièvre en plateau. C'est une fièvre qui, quand c'est élevée, ça ne baisse pas avec les antipyrétiques originaires facilement. Et aussi, cliniquement, il y a ce qu'on appelle la dissociation pour température. Ça veut dire que quand la température monte dans le corps humain, normalement, les poumons doivent aussi monter au même moment. Mais en cas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais le pouls a tendance à rester normal. Ça, ce sont des éléments cliniques qui mettent le clinicien en alerte. Le clinicien va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et des examens d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de sang, hémoculture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la coproculture, c'est la culture est au niveau des selles. Pas seulement ça, on peut faire l'uroculture, la culture au niveau des urines. On peut faire aussi la biliculture. C'est principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser les diagnostics précis confirmant la fièvre typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là, de ces cliniques, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça, par exemple, on va faire l'iridal qui peut vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire la numération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter. Mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire l'hémoculture, on doit faire la coproculture, on peut faire la biliculture ou encore l'uroculture.
Christian Dérabé veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde.
La fièvre typhoïde, c'est une maladie, ce qu'on appelle maladie de Messal. C'est une maladie dont la source de contamination, c'est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes en les mains et on va les introduire dans les tubes digestifs. Les modes de contamination peuvent être directs, donc de l'homme à l'homme, à partir des mains qui sont souillées ou de l'eau qui est contaminée. Et en manipulant des éléments ou des aliments qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire contaminer. Mais aussi une contamination indirecte. Et la contamination indirecte, c'est fait par des billets des mouches, des cancrelats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les matières fétales de l'homme et avec les mains sales en ingurgitant la nourriture, par exemple, on peut attraper facilement la fièvre typhoïde. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants.
Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde?
Deux groupes de facteurs principalement. Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle l'hygiène individuelle et publique qui est déficiente. Ça consiste à quoi? C'est par exemple ne pas se laver les mains avant les repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer par exemple ou bien exposer des aliments qu'on doit manger à l'air libre, à la portée des mouches, des bestioles ou encore des cancrelats. C'est avoir des fosses septiques bouchées ou mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau de qualité qu'on consomme qui peut favoriser l'hygiène déficiente. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a des grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde.
Kevin Kaninda, depuis Lubumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches qui souffre de la fièvre typhoïde. Il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut venir d'une personne vers une autre.
Oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que ce sont des maladies transmissibles. Transmissibles ou ce sont des maladies des liens sales. Quelqu'un qui est contaminé, qui a les germes ou bien qui porte les germes en lui, il peut aller faire ses selles facilement et ne nettoie pas très bien les mains après s'être essuyé. Et il quitte les toilettes, il ne se lave pas les mains, il vient vous saluer directement. À partir de vos mains, de cette salutation, vous pouvez vous faire attraper par la fièvre typhoïde.
Ok, je crois qu'il a compris, c'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à souffrir de cette maladie?
Il n'y a pas de personnes disposées à faire la maladie, sauf seulement qu'il y a des régions qui ont une hygiène défectueuse et dans ces régions-là, on trouve un peu plus beaucoup de cas de fièvre typhoïde qui sont liés à l'hygiène. Mais il n'y a pas un âge ou des personnes ou les sexes qui ont une prépondérance à faire la fièvre typhoïde qui dans notre région. Il n'y a pas déjà l'âge pour dire non. Seulement, ceux qui sont exposés par rapport à leur hygiène. l'hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde.
Jean Okongo Osumaka qui se demande si la fièvre typhoïde peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter par exemple.
La fièvre typhoïde attaque tout le monde. Vous savez que les enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature vulnérable. Et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner peut transmettre les germes entre temps. Elle a des germes entre ses mains, elle va manipuler ses seins et en donnant les seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer.
Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde?
Oui, la fièvre typhoïde fait partie des maladies tropicales. Surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos milieux, où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de fièvre typhoïde, mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là, et quand il y a des complications, ils nous amènent soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec les malades qui viennent en coma, en encéphalite typhique, comme on l'appelle. Donc nous les recevons régulièrement.
Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade, quoi?
Oui. La fièvre typhoïde, on peut faire le diagnostic différentiel avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a des signes de fièvre. Mais sepsis, c'est une infection généralisée. Vous pouvez les confondre avec la fièvre typhoïde et l'angiocolite parce que au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatosplénomégalie qui peut vous amener à confondre la fièvre typhoïde avec l'angiocolite. Vous avez aussi la tuberculose, la shigellose et les salmonelloses non typiques, la mébiase colo-hépatique sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde.
Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde?
C'est difficile. Je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir fait la fièvre typhoïde. Après quelques temps, il a en lui, on appelle ça des porteurs chroniques. Ces anticorps ont développé l'immunité contre la fièvre typhoïde. Mais à l'ennemi, quand on n'a pas encore fait la fièvre ou quand on n'a pas encore été examiné, c'est difficile de dire que celui-ci porte la fièvre typhoïde ou pas. Donc, il faut faire la maladie ou encore ceux qui fréquentent les services hospitaliers lors d'un check-up ordinaire et en faisant le bilan général, on peut aller découvrir qu'il a la fièvre typhoïde pendant qu'il n'a pas encore commencé à faire la maladie.
C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps.
C'est recommandé de temps en temps, même quand vous n'êtes pas malade, de faire le bilan médical. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout, les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc, quand vous avez les symptômes, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça qu'on recommande à tout le monde, même quand quelqu'un n'est pas malade, régulièrement d'aller faire un check-up tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est parfois pour aller découvrir ce que vous n'avez pas encore des symptômes. Parce que la plupart des temps chez nous, nous allons à l'hôpital seulement quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à voir tel symptôme. Et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la dénicher après.
Merci beaucoup, docteur. Je pense que à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Mais prochainement, nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde, mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne.
Merci beaucoup.
D'accord, nous vous remercions, docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci.
C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkiba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. À présent, carnet de santé. Chaque semaine, dans Carnet de Santé, nous mettons en relief la journée mondiale du paludisme qui est célébrée le 25 avril de chaque année. Nous verrons notamment quelques innovations pour combattre la maladie. Nous nous rendrons aussi au Kenya pour découvrir comment ce pays a réduit la prévalence du paludisme de 50%. Puis nous nous focaliserons sur un nouveau vaccin contre le paludisme qui a été approuvé pour une utilisation au Ghana et au Nigeria. Enfin, focus sur la mise en garde de l'UNICEF qui dit que des millions d'enfants n'ont pas été vaccinés ces dernières années. Tout cela et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de Santé. Salut à tous. Merci de nous rejoindre sur Carnet de Santé. Du premier vaccin mondial contre le paludisme aux nouveaux outils de lutte antivectoriels, la lutte mondiale contre le paludisme ne ralentit pas. Le paludisme est une maladie grave, parfois mortelle, causée par le parasite Plasmodium. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2020, 627 000 personnes sont mortes de la maladie transmise par les moustiques. La plupart sont des enfants en Afrique. En plus, des millions de personnes sont infectées par le paludisme chaque année. Les observateurs affirment que des solutions innovantes sont essentielles pour réaliser de nouveaux progrès significatifs dans la lutte en cours contre cette maladie. Le Kenya l'a compris, nous dit Uba Abdi de Nairobi. Son reportage est relaté par Dini Niwa.
Le Kenya a fait des progrès considérables vers l'éradication du paludisme avec la mise en œuvre de plusieurs interventions ciblées sur diverses régions du pays. Selon le docteur Omar Ahmedine, responsable du programme national de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé, le nombre de personnes souffrant de paludisme semble diminuer. Le docteur Omar a déclaré que dans l'ensemble, le pays avait réduit la prévalence de 50% au cours des 10 dernières années pour se situer à 6% contre 11% en 2010.
Ce plan d'élimination du paludisme nous aidera à développer les méthodes que nous suivrons pour nous assurer que nous avons réduit le paludisme dans ces régions. La seconde stratégie est sur le comportement social du paludisme au Kenya, qui est une méthode que nous utiliserons pour nous assurer que tous nos habitants connaissent le paludisme et savent comment s'en protéger.
Le représentant de l'OMS au Kenya, le docteur Diallo Abdourahmane, a exhorté le pays à accroître son soutien à l'introduction de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme. L'OMS a noté que même si le Kenya continue de faire des pas importants dans cette lutte, de nouveaux défis menacent son progrès.
Qu'il s'agisse d'un traitement efficace, qu'il s'agisse de toutes les mesures préventives comme les moustiquaires en premier, nous devons nous assurer que nous élargissons la mise en œuvre de ces outils qui fonctionnent déjà pour garantir l'équité et l'accès, en particulier pour la population vulnérable de moins de 5 ans, enfants, femmes enceintes, aux populations difficiles à atteindre et ainsi de suite.
Une variété de mesures préventives ciblant les besoins locaux ont conduit à des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme, mais la diminution des ressources souligne la nécessité de travailler plus efficacement. Le directeur de l'organisation NOMAC, Asher Owino, affirme que l'utilisation de Mozi dans l'environnement réduira les cas et les effets de la malaria.
Il existe un autre type de mozi appelé trempage et séchage. Trempage et séchage sont ceux que nous mettons sur les vêtements utilisés, car vous savez que lorsque les vêtements viennent de l'usine, vous ne pouvez pas les retourner à l'usine. Alors nous avons adopté le trempage et séchage. Vous mettez une petite quantité dans une bassine d'eau, puis vous y mettez des vêtements, puis vous les sortez et quand ils sèchent, ils empêchent les moustiques de s'approcher.
Selon l'organisation USAID, le gouvernement américain débloque chaque année 35 millions de dollars pour réaliser des projets de lutte contre l'épidémie de paludisme.
Dans quelle mesure le paludisme vous préoccupe-t-il et comment vous protéger? Quelles solutions locales connaissez-vous pour prévenir ou traiter le paludisme? Voici quelques réactions qui nous viennent du Nigeria.
Ce qui me préoccupe avec le paludisme, c'est l'augmentation du taux de mortalité.
Le paludisme est une maladie dangereuse dont nous devons nous préoccuper à Kano, où il y a beaucoup d'égouts et d'eau stagnante, ce qui favorise la prolifération des moustiques. Ma maison est recouverte d'une moustiquaire, de sorte que les moustiques ne peuvent pas entrer.
S'il y a un signe de paludisme, je commence par aller dans une pharmacie près de chez moi. Puis après un ou deux jours, si je ne vois pas de résultat, j'amène ma famille à l'hôpital.
Jusqu'à présent, la mesure préventive est de dormir avec des moustiquaires. Et s'il y a d'autres médicaments traditionnels, c'est bon. Je vais bien, mais je pense que le mieux est d'éviter la maladie grâce aux moustiquaires.
Même dans ma région, je peux utiliser des moustiquaires ou appliquer un produit sur mon corps comme un supplément. Je ne prends pas de médicaments à base de plantes pour lutter contre le paludisme parce que les médicaments à base de plantes ne peuvent pas l'éviter.
Je n'ai jamais voulu prendre de médicaments traditionnels. J'avais l'habitude d'acheter des médicaments d'origine anglaise. Le pire avec le paludisme au Nigeria, c'est que vous prenez le médicament, le traitement, mais au bout d'un certain temps, la maladie revient.
Je n'utilise pas de plantes médicinales parce que je ne connais pas de plantes médicinales qui soignent le paludisme. Je vais uniquement à l'hôpital pour voir un médecin.
Ces solutions ne sont pas des avis médicaux. Vérifiez toujours auprès de votre fournisseur de soins de santé pour résoudre tout problème de santé. Un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l'Université d'Oxford a reçu le feu vert pour une utilisation au Ghana et au Nigeria. Le vaccin offre un nouvel espoir dans la lutte contre cette maladie transmise par les moustiques. Davantage avec Mouamadou Oumfa.
Ce vaccin, c'est le R21 Matrix M. Développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford, il est fabriqué par le Serum Institute of India. Les autorités ghanéennes l'ont approuvé pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. Il s'agit de la tranche d'âge la plus exposée au risque de décès dû au paludisme.
Nous continuons à faire un suivi pour nous assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire tardif de la vaccination et, bien sûr, pour déterminer la durée d'action du vaccin. Et il se pourrait qu'après 3 ou 4 ans, une autre dose de rappel soit nécessaire.
Selon une étude publiée en 2021, le vaccin R21 Matrix M d'Oxford s'est avéré efficace à 77% pour prévenir le paludisme. Cependant, l'OMS n'a pas encore formellement recommandé l'utilisation de ce vaccin. Un groupe de travail doit encore examiner les résultats des tests effectués avec ce vaccin avant de donner un avis. Le 6 octobre 2021, l'OMS avait recommandé un autre vaccin antipaludique, le RTSS, produit par le géant pharmaceutique britannique GSK. Une recommandation fondée sur les résultats d'un programme pilote de vaccination antipaludique au Kenya, au Ghana et au Malawi.
Les pays pilotes ont vacciné plus de 1 300 000 enfants depuis le début de la vaccination et ont signalé une baisse de près de 30% des hospitalisations d'enfants atteints de paludisme grave. Ils ont également constaté, après 2 ans dans les zones où les vaccins ont été administrés, une réduction de près de 10% des décès d'enfants dans le groupe d'âge éligible au vaccin.
Le RTSS a donc produit des résultats intéressants, mais des recherches ont montré que son efficacité était d'environ 60% et diminuait considérablement avec le temps, même avec une dose de rappel. Le R21 Matrix M représente donc un réel espoir. D'ailleurs, l'OMS rappelle que la mise au point d'un deuxième vaccin antipaludique aurait des avantages considérables pour la lutte contre le paludisme, en particulier parce que cela permettrait d'accroître l'offre de façon à répondre à la forte demande prévue.
Le professeur Alidou Tinto est professeur de parasitologie et chercheur en santé mondiale. C'est aussi l'un des principaux chercheurs du vaccin R21 au Burkina Faso. Il explique.
En tant que chercheur, étant vraiment sur le terrain au quotidien avec les populations, parce que nous menons nos recherches en milieu rural, il est clair qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Parce que quand on compare à la COVID-19, quand vous voyez un peu, lorsque la pandémie est survenue, le volume de moyens financiers qui a été investi pour accélérer justement l'agenda de la recherche pour développer un vaccin et circonscrire la pandémie, je pense que le paludisme mérite justement d'avoir la même attention que la COVID-19, parce qu'il est bien vrai que ce n'est pas une pandémie, Mais vous retiendrez que le paludisme continue de tuer 600 000 personnes par an en Afrique, ce qui est énorme. Et donc, il y a des efforts, certes, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, le vaccin R21, si vous voulez, est un dérivé des RTSS. C'est pratiquement la même protéine. Seulement, sur le plan de la biotechnologie, il y a eu des innovations qui ont permis de faire en sorte que le R21 soit beaucoup plus immunogène. Ça veut dire, en termes techniques, on dit immunogène, qui permet à l'organisme de mieux réagir et produire les anticorps nécessaires pour protéger l'individu. À la différence des RTSS, nous avons démontré justement dans la phase 2 au Burkina que ce vaccin pouvait protéger jusqu'à 77%, ce qui est énorme. Mais nous sommes dans le processus justement d'accélérer l'agenda d'enrichissement de ce vaccin parce qu'on a estimé que, connaissant très bien RTSS, qui est un vaccin similaire à R21, et ayant aussi l'expérience de la COVID-19, il ne sera peut-être pas nécessaire d'attendre jusqu'à la fin de la phase 3 avant d'avancer avec l'enrichissement de ce vaccin. Et donc, après une année de suivi déjà, on aurait une esquisse et nous pensons que ces résultats, en plus de ceux de la phase 2, devraient permettre à l'OMS et aux régulateurs des pays africains d'avancer et enregistrer ce vaccin pour que les populations puissent accéder rapidement. Pourquoi attendre les 4 ans, les 2 ans de la phase 3? Pourquoi ne pas y aller et donner ce qu'ils appellent une autorisation temporaire, comme on l'a fait pour la COVID-19? Et si entre-temps, au cours de la phase 3, on se rend compte qu'il y a des soucis, on peut revenir et remettre en cause justement cette autorisation. Et je pense que c'est dans cette dynamique que le Ghana et le Nigeria se sont alignés. Et ne soyez pas étonnés que dans les semaines ou les mois à venir, d'autres Africains emboîtent le pas à ces deux pays, parce que je pense qu'il est temps pour les Africains de s'assumer. Et nous, en tant que chercheurs, avec nos homologues de la Gambie et du Royaume-Uni toujours, nous sommes justement dans la perspective de tester ce vaccin à grande échelle chez les adultes pour voir est-ce que ça peut apporter un bénéfice également à l'Afrique. S'il serait que réduire l'infection, ça pourrait avoir un impact sur la transmission de façon globale. Donc cette idée est en cours et si tout va bien, on va le mettre en œuvre d'ici l'année prochaine également. Ça veut dire un essai chez les adultes. Alors, le message, c'est à l'endroit des populations, parce que c'est vrai que nous sommes dans un optimisme excessif avec ce vaccin qui donne une efficacité de plus de 75%, mais nous sommes encore en train de finaliser les essais sur ce vaccin. Donc, je dirais que de continuer à utiliser les moyens de prévention existants qui sont les moustiquaires, la chimio-prévention saisonnière et tous ces moyens qui sont recommandés par nos ministères de la Santé, parce qu'en attendant que ce vaccin, justement, soit déployé à grande échelle pour nos populations.
La semaine africaine de la vaccination et la semaine mondiale de la vaccination ont lieu chaque année au cours de la dernière semaine d'avril pour sensibiliser et promouvoir la vaccination contre les maladies évitables par la vaccination. Le thème de cette année, le grand rattrapage, vise à atteindre les enfants qui ont manqué des vaccinations et à renforcer des programmes de vaccination de routine. 67 millions d'enfants à travers le monde ont raté une partie ou la totalité des vaccinations de routine entre 2019 et 2021. C'est ce que révèle un nouveau rapport publié par l'UNICEF. Les pays d'Afrique et d'Asie du Sud comptent le plus grand nombre d'enfants sous-vaccinés et ceux qui n'ont reçu aucune dose. Le nombre de ces enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre s'élève à 6,8 millions. Les interruptions de services dues au COVID-19, les conflits et la réticence à la vaccination sont en partie responsables de cette situation. Le rapport exhorte les gouvernements à prendre des mesures, notamment en atteignant de toute urgence les enfants qui ont manqué des vaccinations pendant le COVID-19 et en accordant la priorité au financement des services de vaccination et à l'innovation. Selon l'OMS, environ 33 millions d'enfants devront être vaccinés en Afrique entre 2023 et 2025 pour remettre le continent sur la bonne voie afin d'atteindre les objectifs mondiaux de vaccination de 2030. C'est ici que prend fin Carnet de santé de ce jour. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à La Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien et surtout, efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine. C'est la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la fièvre typhoïde, notamment des symptômes, des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque survient cette fièvre. Nous étions en compagnie du docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital Didjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.